Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 37. Je suis Steve et je suis toujours avec...
Mister, oh putain, mais ça commence bien, voilà, Monsieur Onebony, qui est Mister Onebony d'ailleurs, qui est malade.
Ouais, qui est super malade et qui fait le podcast quand même, et donc vous allez entendre sa voix malade.
Ma voix de malade.
En espérant que tu ressaignes pas du nez ou un truc...
Ouais.
un truc du genre bizarre.
Des petits aléas du direct.
Ouais. Bon bah cette semaine, hein, comme d'hab, numéro de la semaine, des news, les reviews, et aussi un petit mail d'un auditeur, ça fait toujours plaisir.
Voilà.
Bah on commence par le numéro de la semaine, donc épisode 37, pour moi ce sera le showcase numéro 37, qui date de 1962, c'est vieux, c'est super vieux, ça aura 50 ans l'année prochaine, quand même. Et c'est la première apparition des Metal Men.
Ah d'accord.
Metal Men, qui sont une espèce de bande de robots dirigés par le docteur Will Magnus. Alors c'est des robots sans être vraiment des robots, quoi. C'est des espèces d'alliages de métal qui prennent forme et qui ont une conscience propre.
Alliage, t'as dit alliage.
Eh oui.
Il y a des mots comme ça qu'il faut pas dire.
Donc dans l'équipe on a Gold, Lead, Mercury, Iron, Tin, Platinum. Platinum étant une femme. Mm-hmm. Qui est, elle, amoureuse du docteur Magnus, son créateur. Enfin, à la fin du premier épisode, ils sont détruits, ils disparaissent, et ouais. On a un petit... un des personnels de l'armée qui se trouve là et qui dit, si jamais vous voulez revoir les Metal Men, dites-le nous en écrivant à telle adresse, et donc on demande aux lecteurs de participer, savoir si le truc a plu ou non. Apparemment ça a plu, puisqu'ils sont revenus dans les 4 épisodes de Showcase suivants, et puis ensuite ils ont eu leur propre série, plus des mini-séries, etc.
Et aujourd'hui, ils sont à nouveau, ils ont à nouveau disparu ou ils sont toujours actifs?
Bon, ils sont quelque part dans un coin de l'univers DC et ils reviendront quand on aura besoin d'eux. Peut-être l'année prochaine puisque ce sera leurs 50 ans. Je n'attendrai pas qu'on ait au moins un one-shot spécial sur 2012, quoi.
Ah oui.
Voilà.
Donc, moi je vais passer à mon numéro de la semaine. Ce sera le Iron Man, volume 1, numéro 37. Donc c'est aussi assez ancien, ça date de mai 71, au scénario c'était Jerry Conway et Don Heck au dessin. Et au fait c'est un épisode que j'avais lu à l'époque dans un Strange, que j'avais récupéré, un vieux Strange, où c'est l'une des premières fois que quelqu'un autour de Tony Stark découvre non seulement sa véritable identité, mais qu'en plus cette personne va devenir, va porter le costume d'Iron Man, quoi. En l'occurrence, c'est Kevin O'Brien, qui est une sorte de Jim Rhodes avant l'heure, quoi, en fait. C'était un peu le garde du corps de Tony Stark à l'époque. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, il va mourir possédé par une espèce d'armure qui déconne, quoi. Il va s'appeler Guardsman. Je crois qu'en français, c'était simplement le gardien, quoi, je crois. Tout dans le genre. Et voilà, et donc c'est l'un des personnages récurrents à l'époque qui va disparaître dans l'oubli général, je pense.
Ah bah honnêtement je le connaissais même pas.
Ah oui d'accord, bon bah voilà.
Voilà.
Bah et il y avait vraiment des personnages comme ça qui étaient récurrents à l'époque, comme Jasper Sitwell aussi, qui qu'on voyait beaucoup dans Iron Man, et qu'on voit actuellement dans Secret Warriors.
Ouais, Secret Warriors, oui. Dans l'épisode de ce mois-ci en français en tout cas.
Et ouais, exactement. Et c'est assez marrant parce qu'ils se disputaient tous les deux l'amour de Madame Masque, par exemple. Non mais voilà. Il y a vraiment
finalement,
des choses...
c'est Hood qui a remporté son cœur.
Ouais, non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment des choses comme ça qui ont totalement disparu avec le temps et dont on ne se souvient plus, quoi. Iron Man a bien changé, en fait, hein, quand on regarde les premières aventures.
Comme quoi, il y a des évolutions, finalement, sur certains personnages, malgré
cette fameuse
légende qu'on dit que les personnages de comics n'évoluent pas.
Ouais, enfin, c'est un peu aussi les mêmes histoires, mais racontées avec d'autres personnages, quoi. Il y a juste Tony Stark qui reste, mais bon... Enfin voilà. Donc un numéro 37 assez nostalgique quoi pour moi.
D'accord. Bah moi c'est surtout parce que les Metal Men j'en avais lu pas mal étant plus jeune. Donc voilà, c'est pour ça que j'y ai pensé.
Donc on va passer peut-être.
News.
Cette semaine, alors je vais commencer par DC. Bonne nouvelle déjà pour toi. Danger Gens revient sur Booster Gold au numéro 44.
Ah parce qu'il s'en va donc. J'étais même pas au courant honnêtement.
Ah bah apparemment il est plus sur le titre depuis quelques temps, enfin semble-t-il, puisque s'il revient j'imagine qu'il est parti.
À moins qu'il fasse une petite pause Ah, remarque, vu qu'il écrivait Time Masters, je ne sais pas, il écrivait, il dessinait, je ne sais pas. Honnêtement, je suis à la bourre totale sur Booster Gold actuellement, donc voilà, j'ai une dizaine de numéros de retard.
En tout cas, il revient, ça c'est sûr, pour le numéro 44, qui sera donc un tie-in à Flashpoint.
Bah oui, puisque c'est la suite de Time Masters.
Voilà.
La fin de Time Masters, numéro 6, on avait à suivre dans Flashpoint numéro 1 et Booster Gold 44.
Eh ben alors tu ne le sais peut-être pas, mais voilà, Booster Gold n'était plus écrit par Dan Jurgens, semble-t-il.
Eh bien voilà, bah, c'est une nouvelle triste, mais je suis content, il revient.
Donc, bon bah voilà, donc en même temps.
J'étais triste l'espace de quelques secondes.
Je t'ai épargné un grand choc. autre chose, donc on connaît tous Batman Arkham Asylum, fameux graphic novel de Grant Morrison que tu adores. Il y a eu aussi le jeu vidéo, Arkham Asylum, et va y avoir plutôt la suite. Arkham City, eh bien Arkham City, pour boucler la boucle, va être adapté en comics. Ce sera une mini-série en 6, mais écrit cette fois par Paul Dini et mis en image par Carlos Danda. Donc en fait, ça te racontera ce qui se passe entre les deux jeux, Arkham Asylum et Arkham City. Et en fait, on nous dit que chaque numéro sera accompagné d'un backup digital. Donc alors, je sais pas du tout comment ça va se présenter.
Ah bah peut-être un code que tu mettras sur le site et que... Tu pourras aller lire. Enfin bon, à mon avis, le code sera vite partagé par tout le monde.
Ouais.
Mais bon, il y a un effort de promouvoir le digital. C'est toujours ça de bien, quoi.
Ouais, ouais. Puis bon, Paul Dini sur du Batman, moi je suis toujours assez client. Ouais. Bon. Maintenant, c'est vrai que quand c'est par rapport à un jeu vidéo, c'est toujours peut-être moins intéressant.
C'est du cross-média, quoi. Ouais. En même temps, Paul Dini a écrit la série animée.
Oui, ouais.
Voilà, enfin je veux dire, le cross-média, il est habitué, quoi.
Effectivement. On continue dans Batman avec un graphic novel Batman, un nouveau graphic novel. Ça s'appellera Batman Noël. Et ça sera Liber Medjo qui va s'y coller. Voilà. Qui va le dessiner, qui va l'écrire.
Oh, ça va être beau donc.
Oui. Et donc ça, si ça s'appelle Batman Noël, je pense qu'on peut l'attendre d'ici Noël, quoi.
Peut-être. Bon,
peut-être même avant d'ailleurs, puisque quand même. Ça fait longtemps aussi, tu vas me dire qu'on n'a pas eu de mini-série Batman, dis donc.
Il y en a toujours en cours, hein. On a Batman Odyssey par exemple.
Oui, bah c'est pour ça que je te dis ça. Il y aura encore une nouvelle mini-série Batman en 6 parties, prévue pour mai, qui s'appellera Batman Gates of Gotham, par Scott Snyder, Kyle Higgins et Trevor McCarthy. Bon, bah alors,
Scott Snyder, que l'on voit actuellement sur Detective Comics, hein,
voilà.
C'est lui qui charge du titre.
Donc il se colle à une mini-série en plus, ou peut-être que du coup il va partir de Détective, je ne sais.
Peut-être est-il débarqué du titre.
Ouais, bah ça bouge beaucoup en ce moment chez Batman, donc ça devient assez dur à suivre.
En même temps, on attend toujours la fameuse deuxième partie de Withering Wire, la mini-série écrite par Kevin Smith, qui était censée être un truc de deux chapitres, deux mini-séries de 6 parties à chaque fois. Bon, comme d'hab, de toute façon c'est du Kevin Smith, on s'attend au retard, comme toujours.
Oui. Rendez-vous dans 3 ans, on en reparle dans le Comics Weekly numéro 60. Même
92.
Ouais, 92.
En parlant de choses de Batman qu'on en attend, on attend encore la suite de Frank Miller.
Oui.
Du All-Star Batman.
Enfin, parle pour toi, hein. Moi je
l'attends. Non, enfin je dis on l'attend, mais c'était prévu pour sortir ce mois-ci normalement au départ. Ouais.
Non mais il y a Xerxes, j'arrive pas à le prononcer à chaque fois, qui devrait sortir aussi, et puis on attend surtout Sin City 2 au cinéma.
Ouais.
Qui était prévu pour il y a 2 ans.
Bon, on attend, quoi.
Voilà. dernière petite news d'ici, la série Statique débute en mai. On retrouvera au scénario Felicia Anderson et au dessin Scott McDaniel.
Ça, c'est du bon. Moi, j'adore.
D'accord, bah écoute...
Scott McDaniel, je suis très client de son style. Quoi.
Et on parlera sans doute peut-être même du numéro 1 dans un wiki, qui sait.
Peut-être, ouais. J'avais mis du temps à m'adapter à son style quand je l'avais vu arriver sur Daredevil. Avec, je crois que c'était Chichester au scénario, à l'époque où il avait changé de costume, un truc.
Ah oui, avec Fall from Grace ou je sais plus quoi.
Voilà, c'est ça, ouais, il avait un costume beaucoup plus noir et tout. Et j'avais mis un peu de temps à m'adapter à son style, mais aujourd'hui j'aime beaucoup. Voilà.
D'accord. Oui, c'est vrai que c'était assez space.
On passe à Marvel.
On passe à Marvel, effectivement. Alors, autour de Fear Itself, tu t'en doutes, hein, c'est du teaser à plein tube. Donc déjà, il y a eu un petit teaser qui est tombé sur le one-shot Fear Itself Book of the Skull, qui est le prologue à Fear Itself. Donc on voit grosso modo l'Invaders face à Crâne Rouge, hein, c'est ce qu'on nous avait dit. Donc ça devrait faire la lumière sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu de la peur. Donc rendez-vous dans ce well-shot pour tout savoir. Autour de Fear Itself également, il va y avoir un Tiny Spider-Man à Fear Itself déjà. Trois épisodes, mini-série. Christopher Yost au scénario et Mike McConn au dessin.
Ah, Chris Yost sur du Spider-Man.
Ouais, donc ça pourrait être intéressant quand même. Hein. Ouais.
À voir.
Bah, à voir, hein, parce que les mini-séries Spider-Man autour d'un event, c'est jamais tellement transcendant.
On se rappelle de Amazing Spider-Man Secret Invasion.
Voilà.
Par exemple. Ouais. Où il y avait tout sauf Spider-Man.
Ouais, et qui était tout sauf bon aussi.
J'avais pas osé le dire, mais bon.
Autre tie-in, bon, bah, là tu peux. Hein.
Mais je l'avais pensé très fort.
Hein. Autre tie-in à Fear Itself, Youth in Revolt, donc avec des jeunes qui se révoltent. Quoi.
Ok.
Sean McKeever. Non, mais des jeunes héros type Aranya, ouais, etc.
Ouais, ou voilà. Runaways, Young Avengers.
Voilà, voilà. Prenez ce que vous voulez. C'est Sean McKeever justement qui va faire la sélection, et Mike Norton qui va les mettre en dessin. Et voilà, donc deux mini-séries Fear Itself d'annoncer, il y en aura à mon avis encore beaucoup d'autres à nous être révélées dans les jours qui viennent. Ensuite, les grosses news de la semaine, surtout chez Marvel, bah, c'était surtout FF numéro 1.
Oui. Donc on sait enfin ce que ça veut dire, et c'était donc bien Future Foundation.
Exactement. Ce qu'on ne savait pas par contre, c'était que, bon, maintenant on peut le dire, hein, Johnny Storm est celui qui disparaît, de toute façon vous le savez tous.
Oui, tu avais bien inventé le truc la semaine dernière.
La flamme s'est éteinte, et du coup, la flamme va peut-être être ravivée par quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Et ce quelqu'un d'autre, c'est nul autre que, Spider-Man va rejoindre les 4 Fantastiques avec un nouveau costume pour l'occasion, en fait, qui va faire un nouveau costume.
Un de plus dans la petite boîte, dans la Spider Cave.
Voilà, encore un nouveau costume, après le pseudo Tron, juste pour faire de la pub à Tron, c'était vraiment ridicule dans Amazing Spider-Man, puisque c'était ni plus ni moins que ça, ouais. Hein, puisqu'il n'a pas gardé ce costume.
Bah, il l'a gardé, mais il le réutilisera-t-il?
Ouf, ouais, mes fesses, hein, je pense.
Un costume qui était quand même un petit peu trop puissant, le côté invisible.
Ouais, voilà. Bah, ça rappelait le costume de Stark, hein, tout simplement.
Ouais.
Voilà. Donc, FF avec Spider-Man
Le costume blanc, moi, je trouve pas mal, quoi.
Oui,
Le design est pas trop mal, on reconnaît Spider-Man, et en même temps, ça le change vraiment. Donc voilà, pour le différencier de son passage dans FF et de sa série ou de New Avengers, il y a de quoi. Enfin, je veux dire, au niveau du costume, ça, voilà. Maintenant, combien de temps va-t-il le garder?
Et puis surtout, le choix de Spider-Man pour remplacer Johnny, écoute, pourquoi pas, hein, de toute façon c'est le blagueur de l'équipe, donc.
Oui, voilà, puis bon, c'est pas comme si c'était son rêve de rentrer dans les Fantastic Four, hein. Rappelons-nous d'Amazing Spider-Man numéro 1 ou 2.
Hein?
C'était le 1.
C'était le 1. Ouais. Bah c'était parce que c'était dans la deuxième histoire du numéro 1 en fait.
Ah, c'est pour ça.
On va quand même continuer rapidement avec d'autres news. Là, l'autre grosse news Marvel de la semaine, c'était le remaniement des titres X. Donc, prochainement, nous allons avoir deux équipes X-Men, comme ce fut le cas à l'époque de...
Bah, juste après le départ de Claremont.
Voilà, c'est ça.
Avec John Byrne d'un côté, et puis Jim Lee de l'autre.
Voilà, l'équipe or et l'équipe bleue. Alors, je crois que c'était ça.
C'était ça, ouais. Gold et bleu.
Voilà. Et alors là, on aurait deux équipes, une, alors attention, originalité quand tu nous tiens, une dirigée par Cyclope et une dirigée par Wolverine. Mais alors le truc, en fait, qui m'a un petit peu saoulé, je dois dire, c'est que on nous dit que Cyclope suit la voie de Xavier, donc une fois de plus, en fait. J'espérais qu'il allait changer, et bah non.
Bon, en même temps, la voie de Xavier, ça fait longtemps qu'il la suit plus vraiment. Hein.
Ouais, mais maintenant c'est vraiment un super retour en arrière, alors, si c'est pour ça au final. Et Wolverine, donc, lui, suivrait la voie de Magneto. Ce qui est assez bizarre.
Surtout comparé à ce fameux teaser que l'on avait vu avec un Cyclope Magneto.
Oui, puis en plus de ça, rappelle-toi, enfin, l'Adamantium sorti de Wolverine par Magneto et ce genre de choses.
Bah oui, bien sûr. Enfin, bon, il y a tout un passif, quand même.
Il y a tout un passif. Et,
c'est là qu'on se rend compte qu'on est vieux.
Non, mais scénaristiquement parlant, je trouve que l'inverse aurait été bien plus intéressant, de voir un Cyclope suivant
complètement.
Magneto.
Complètement. Et puis Wolverine qui suit le rêve de Xavier, parce que finalement, ouais, c'est ce qu'il fait depuis des années.
Et ça aurait été extraordinaire, en plus, qu'il épouse totalement le rêve de Xavier et qu'il devienne vraiment... qu'il soit un peu plus en paix avec lui-même, quoi. Enfin, quoi. Enfin bon, je sais pas, mais je trouve que c'est
au vu des événements récents qui soient en paix avec lui-même, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais en tout cas qu'ils suivent le rêve de Xavier, ça aurait été une très bonne idée.
Ouais, ouais, enfin, voilà, en quête de rédemption un petit peu quoi. Et non, puis enfin pour moi c'est un total ratage scénaristique que de c'est, il se trompe de direction quoi, c'est pas possible quoi. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais
on verra bien ce que ça va donner, puisque c'est ce qu'on nous dit au départ, qui sait si ça va pas changer au fur et à mesure.
Bah écoute, on verra. Alors bon, aussi, il faut préciser que...
Les équipes créatives, oui.
Les équipes créatives. Donc Jason Aaron serait sur l'équipe menée par Wolverine, ce qui est assez logique.
Oui, puisque bah, c'est quand même lui qui tient sa destinée depuis maintenant. Pas loin de 2 ans, hein, je crois, que Jason Aaron tient Wolverine.
Ouais. Il le tient bien, il le tient bien.
Oh non, pas de blague vaseuse quand même. Non.
Oui, non. Donc on a annoncé 2 artistes qui vont accompagner Jason Aaron sur l'équipe avec Wolverine, menée par Wolverine. On nous annonce déjà Mark Silvestri, donc, qu'on a déjà vu récemment sur le titre.
Oui, puis surtout anciennement, quoi, Mark Silvestri.
Oui, alors, bien sûr.
Avec Chris Claremont, quoi. Enfin,
ouais, voilà. Exactement. Et Steve McNiven. Donc McNiven qui va nous dessiner il a fait Old Man Logan, donc bon.
Il est habitué à Wolverine.
Il est habitué à Wolverine, on va dire.
Au moins un petit peu.
Mais il y aurait 4 artistes différents, hein, on le dit. Donc ils sont vraiment du lourd, quoi, pour le moment. Mm-hmm. On va voir les 2 suivants. En tout cas, pour la 2e équipe, ce qui est sûr d'ores et déjà, c'est qu'au scénario, ce sera Kieron Gillen qui va s'y coller.
Oui, puisqu'il remplace Matt Fraction.
Voilà. Donc l'équipe Cyclope. Hein, on imagine que l'équipe Cyclope serait peut-être Uncanny, celle d'Uncanny X-Men.
Ouais.
Et Wolverine, peut-être X-Men Legacy pour garder justement le Marc c'est Magneto, donc.
Bah techniquement ça devrait être Legacy qui suit le rêve de Xavier quoi, enfin l'héritage quoi. Mmh. Enfin, mais bon. Ah bref. On verra bien quand ça sortira. Hein. Mmh. Au niveau des artistes, on a qui d'annoncer?
Ah bah je te dis, c'est tous les
deux. On sait pas pour les artistes avec voilà, Gillen. D'accord.
Non, voilà, c'est les deux d'annoncer seraient apparemment pour l'équipe Wolverine, alors bon, ça reste à confirmer, hein. Surtout qu'il y en a 4 normalement qui devraient bosser dessus. 2 sont annoncés, faut voir.
Ça sent la technique Spider-Man à faire tourner les artistes.
Faire tourner les serviettes aussi, comme Patrick Sébastien.
Ok, alors celle-ci, voilà, on va la news suivante, s'il te plaît.
Faire tourner son chapeau comme enfin bref. news suivante, oui, bah si, news suivante, figure-toi que Ed Brubaker s'en va de Secret Avengers. Oh, comme c'est étrange. Serait-ce mauvais? Serait-ce pas terrible? Serait-ce moyen pour du Ed Brubaker?
Bah, je sais pas, je me suis arrêté au 5, j'ai pas voulu continuer.
Bah, justement. Donc après le 12.1, hein, au fait, Ed Brubaker s'en va et laisse la place à partir du numéro 13 à Nick Spencer au scénario et à Scott Eaton au dessin.
Alors Nick Spencer, là par contre, ça c'est du bon.
Bah oui, voilà.
Enfin, c'est du bon. C'est du bon, pas basé sur ce qu'il a fait jusqu'à présent. On verra s'il confirme. Mmh. Parce qu'il peut se planter aussi, ça.
Oui, mais merci de lui porter chance, Steve. Bon, et avec ça,
moi, je porte chance.
Oui, on va conclure les news là-dessus, hein, et on va attaquer cette fameuse double review.
Ouais, double review de la semaine, Flash numéro 9. Encore du Flash, c'est vrai que ça fait 3 mois de suite qu'on fait des Flash différents, mais ça tombe comme ça. Donc, au scénario, Geoff Johns, bien évidemment, retour de Francis Manapul au dessin, et c'est un numéro qui s'appelle... Oh putain, c'est pourri. Ah, c'est vraiment pourri. Je vais mettre ça sur le compte de la fièvre.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est un numéro Road to Flashpoint. Donc en route vers Flashpoint.
Oui, avec l'arrivée dès les premières pages de Ben Reilly qui arrive en moto. non mais ça m'a fait. Enfin moi franchement la première image que j'ai eue c'est ça. C'est-à-dire que on se souvient là le gros event la saga du clone, ça a commencé sur un mec qui arrivait en moto, un espèce de mec tout bizarre avec un casque de motard et on savait pas qui c'était. Et là ça démarre un peu pareil, quoi. Ça m'a fait marrer.
Sauf que là, c'est un motard du futur, hein, quand même. Hein. On voit qu'il est très futuriste. Ce motard s'appelle Haute Poursuite. C'est pas marqué du tout dans l'épisode, mais c'était marqué dans l'épisode précédent où on avait son nom. Qu'est-ce qui va-t-il arriver? C'est une très belle phrase. Que va-t-il arriver? Retrouver Haute Poursuite dans 2 semaines, etc., etc.
Non, mais c'est un nom un peu pourri quand même. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il est pas nommé.
Oui, à moins que, enfin, c'est le nom qu'ils lui ont donné. Peut-être qu'il aura un autre nom ensuite, mais en tout cas, ça a été donné dans le dernier numéro de Flash. Donc, au niveau de l'histoire, eh ben, on a ce fameux Hot Pursuit qui arrive et qui cherche Barry Allen. On n'en sait pas plus, on ne sait pas pourquoi, mais il cherche Barry Allen. Il dit aussi qu'il en manque de fuel, et, enfin, en tout cas, d'essence ou de je ne sais quoi, ce qu'il met dans sa moto. C'est assez important pour la suite. De son côté, on a justement Barry qui enquête sur la mort d'un super-héros âgé, super âgé, qu'il ne reconnaît pas. On sait pas trop de quoi il est mort. Est-ce un meurtre? Est-ce qu'il est mort de vieillesse? Et c'est là qu'on se demande si le fait qu'il cherchait du carburant pour sa moto, sa mode poursuite, ça viendrait pas de là. Quand on apprend la véritable identité de ce mort, qui n'était autre que Elongated Kid, qui était un gamin jusqu'à il y a une semaine.
Un gamin de 16 ans.
Voilà, et qui se retrouve à peu près âgé de 90 ans au moment de sa mort, donc voilà, où sont passées ces années.
Il y a un problème, c'est comme X-Files en fait, Barry Allen qui enquête sur les crimes et les meurtres surnaturels.
Et on a toute cette procédure d'enquête, on a aussi Barry qui devait aller un pique-nique familial, et qui refuse d'y aller, enfin qui s'arrange pour pas y aller, finalement ça tombe bien qu'il y ait ce meurtre, puisqu'il veut éviter de passer du temps avec sa famille. Il va rencontrer Hot Pursuit à la fin, on va pas révéler l'identité de Hot Pursuit puisque c'est sur la dernière page. Ça soulève vraiment beaucoup de questions. Moi, j'ai vraiment trouvé l'épisode super intéressant. Il y a de tout, il y a de l'enquête, comme à l'époque, la vieille époque du volume 1 de Flash. Il y a des moments familiaux quand même, on n'oublie pas. On revoit enfin Wally West quand même. Au bout de 9 épisodes, il était temps. Parce que ouais. Wally West avait totalement disparu depuis le retour de Barry Allen. Ce qui est dommage puisque je trouve que c'était un très bon Flash et c'est vraiment dommage de ne plus le voir.
Oui, il était à l'ouest.
Oh là là, il faut reprendre des cachets là, monsieur Benny.
Oui.
Enfin, on a un numéro avec un mystère qui vraiment monte en puissance. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'est sûrement ce Hot Pursuit qui a dû drainer la vie de Elongated Kid. Alors, je peux faire fausse route.
Moi, je pense pas. Voilà.
Le mec vient du futur, il a besoin de fuel, on retrouve un gamin super âgé d'un seul coup. Je sais pas, j'ai pensé à ça, mais ce serait trop gros. Donc, on verra bien. T'en as pensé quoi, toi, Vanny?
Moi, j'ai bien aimé, cela dit, bon, à la fin, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de que ça commence enfin, justement, Flashpoint, puisque c'était censé être vraiment le...
Ah ben non, c'est l'arc qui s'appelle Road to Flashpoint. Donc de toute façon, c'est pas le prélude à Flashpoint tout de suite, quoi. C'est pas cet épisode-là. C'est vraiment tout l'arc.
D'accord. Ah, d'accord. Non, moi, j'ai vraiment lu le truc en pensant que c'était... ça y est, quoi, ça allait commencer après ça, quoi.
Ah non, Flashpoint commence en mai, de toute façon. Donc,
Ah oui, oh là là. Alors, vas-y, merci de me péter le moral.
Ah, mais moi, en tout cas, la fin de cet épisode, voilà, j'attends de savoir ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Là, vraiment, la fin m'a laissé... Elle est un peu sur le cul et je m'attendais pas vraiment à ça et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est lire le numéro suivant pour en savoir un peu plus.
Non mais j'ai bien aimé, d'autant que je faisais le parallèle avec la série du clone, et le parallèle est d'autant plus vrai, j'allais dire, que...
Ah bah ouais.
Oui. Voilà.
C'est limite.
on peut pas en dire plus, hein.
Ah bah là on en a déjà trop dit, je pense.
Oui,
là,
je pense. Non mais c'est... Bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux ajouter de plus, si ce n'est que c'est très bon et que ça va être encore un arc à lire, hein, voilà.
Bah, à part les deux derniers épisodes qui étaient vraiment sur des origines des vilains, les deux arcs sont vraiment bons. Enfin, après, ça dépend des goûts, mais je sais que le premier arc, moi, j'avais vachement aimé. Là, ça part vraiment bien et il me tarde de lire la suite de cet arc-là. Voilà, Jones confirme, quoi.
Mmh.
Et le style de Manapool. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop.
Non, si, moi j'aime bien. Alors, il m'a fait penser un petit peu par moment au dessinateur de Haunt.
Ah bon?
Bah ouais.
Ah bon.
Sur les visages de certains personnages et tout. Bah, il y a quand même un style assez cartoony sur les deux. Hein.
Oui, mais moi c'est ce que j'aime bien, ce style cartoony. Toujours avec. On sent quand même le mouvement, la vitesse, etc. Et ça, j'apprécie, quoi. Enfin, moi j'aime bien. Surtout la colorisation en plus, qui est très. Qui a un côté assez doux finalement. La colorisation pour les parties de Manapool, en tout cas, parce que c'était pas forcément le cas sur les épisodes précédents. Moi, franchement, j'adore. Pour moi, c'est un bail, quoi. Y a pas de doute. Hein.
Ouais.
Ça a l'air de te laisser froid.
Si, absolument. Non, mais c'est parce que je suis
complètement HS.
Voilà, je suis HS en ce moment, mais sinon je te dirais que oui, c'est absolument génial. Non, non, c'est un bail.
On te sent convaincu à mort. Ok, bon, allez, on passe au review solo.
Ouais, allons-y. Hein.
Première review de la semaine, Widowmaker numéro 4. Dernière partie de la mini-série qui devait être à la base un crossover entre Hawkeye et Mockingbird et la série Black Widow. Toutes les deux arrêtées faute de vente. Donc, pour cette dernière partie, on a Dwayne Swarzynski au scénario, puisque le crossover était d'un côté Hawkeye Mockingbird écrit par Jim McCann, donc partie 1 et 3, et Swarzynski qui écrivait Black Widow, partie 2 et 4.
Voilà. D'accord.
Le truc devait déjà être écrit, ils ont pas voulu le gâcher. Voilà, bon. Donc Swarzynski au scénario, Manuel Garcia au dessin et Lorenzo Ruggiero à l'ancrage. Bon, c'est un numéro, c'est de l'action back-to-back. Franchement, il y a que ça.
Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on sait enfin qui est...
Oui, on l'a appris le mois dernier, qui était ce fameux Ronin.
Ah, alors est-ce que tu peux le dire ou...
Ouais, le mois dernier, pardon, c'était il y a 15 jours, puisque la série sortait toutes les deux semaines. Mm-hmm. De toute façon, si vous le savez pas, je vais le spoiler, donc si vous voulez pas savoir, zappez. En fait, c'était le premier mari de Black Widow, qui est devenu le premier Red Guardian. Voilà, alors pour un truc qui était censé être une méga menace, qui devait en plus devait rester dans l'univers Marvel pour les mois à venir, etc. Surtout vu la fin, franchement, moi j'y crois pas une seconde, quoi.
Ah oui,
pour moi, c'était juste du buzz pour essayer de faire vendre la série.
Non mais c'est incroyable, parce qu'il devait bouleverser l'univers Marvel pendant les mois à venir.
Et en tout cas, vu la fin de l'épisode, c'est mal parti.
D'accord.
Voilà. Non, il meurt pas. Hein. Il meurt pas. Faut pas penser tout de suite qu'il meurt, non, pas du tout. Mais franchement, j'y crois pas une seconde. Alors, je peux me tromper, mais honnêtement, franchement, cet épisode, voilà, on a les quatre, donc Hawkeye, Mockingbird, Dominique Fortune et Black Widow qui se retrouvent face à des hordes de ninjas de Suprême Soviet, menées par Ronin. Ils se battent sur une île où le mec a fait exploser un volcan, ils vont sur les pentes du volcan à côté de la lave et tout, ils meurent pas, ils ont pas trop chaud, enfin juste un peu dit « oh là là, il fait chaud ». Franchement, j'ai trouvé vraiment le truc vraiment pas top, pour moi c'est un pass. Cette mini-série démarrait vraiment pas mal et s'est cassé la gueule au fur et à mesure, et enfin franchement c'est juste passable quoi. Donc à la rigueur, en TPB à pas cher quoi, mais vraiment, voilà, c'est tout ce que ça vaut, moi j'ai vraiment pas été... intéressé quoi.
C'est le problème des séries comme ça où il y a un adversaire mystère. En fait, effectivement, si la révélation au final est pas terrible,
et c'est
ça
peut-être important
considérablement le.
C'est peut-être important pour les gros fans de Black Widow, mais moi j'en suis pas un, donc franchement je m'en tape quoi.
Moi je pense même pas, hein, parce que franchement l'ex-mari.
C'est son mari quoi, le premier qu'elle avait, celui qu'elle a cru mort, parce que le KGB lui a fait croire qu'il était mort.
Ouais.
En l'entraînant pour devenir Red Guardian, qu'elle a retrouvé des années plus tard. Ouais. Bref, voilà.
Ouais. Ça me fait penser un petit peu aux origines maintenant de Winter Soldier, le côté soldat russe, tu sais,
qu'on
pourra mort depuis des années.
Ouais, c'est ça. Bah franchement, cette impression de grande menace, moi, je l'ai pas senti.
C'est le Winter Soldier du pauvre, quoi, en fait.
Ouais, c'est un peu,
je dis pas ça.
Non, mais si, enfin franchement, c'est ça, quoi. Donc, pour moi, c'est très très bof. La semaine prochaine commence la mini-série Hawkeye Blind Spot. Bon, le petit teaser qu'on a qui nous montre la couve, il y a Cap dessus, il y a Black Widow, il y a Swordsman, quand même, qui est le maître de Hawkeye. Donc, bon, faut voir. Je sais même pas si je suis intéressé pour aller la voir ou pas, quoi. Je veux dire, en tout cas, si c'est une suite directe de Widowmaker, voilà, je suis pas plus intéressé que ça. Après, si c'est autre chose, je verrai, j'attendrai de voir la semaine prochaine.
Quel temps il fait.
Ouais, voilà, c'est ça.
D'accord.
On verra bien si j'en perds ou pas, si ça vaut le coup ou non. Je te laisse pour ta première review solo, Bunny. C'est un pass, hein. Je redis, c'est un pass.
D'accord. Première review solo de ma part, Ultimates. Alors attention, c'est compliqué.
Ouais.
Avengers versus New Ultimates, numéro 1 sur 6. Donc en fait, c'est une mini-série qui va soi-disant marquer l'univers Ultimate. Donc en fait, Mark Millar est au scénario et Lenny Francis Yu au dessin. Alors Mark Millar, lui, tu sais qu'il était sur... Ultimate Comics Avengers, hein, voilà, c'est ça. Il y a eu 3 séries de 6 numéros chacune, si je ne me trompe pas. Donc là, pour le moment, la série est mise en hiatus le temps de cette mini-série. je te dis que c'était compliqué, mais voilà, faut faire quand même le point sur la situation. Et donc, ça s'appelle Death of Spider-Man. Faut le préciser, c'est sur la couverture. Death of Spider-Man, c'est écrit en grand. Alors,
c'est censé être un prologue à ce fameux event Death of Spider-Man dans Ultimate Spider-Man?
Ben, je sais pas, mais en tout cas, sur la couverture, c'est écrit en énorme Death of Spider-Man, au-dessus même d'Ultimate, au fait. Il y a deux choses décrites, c'est Death of Spider-Man en haut, et puis en bas, c'est écrit Avengers versus New Ultimate.
D'accord, donc ouais, ce serait une
D'ailleurs,
sorte de
c'est
prologue.
Mal découpé, parce que le Ultimate se retrouve en haut, et du coup, on a Avengers tout court versus New Ultimate. Enfin, bref. De toute façon, c'est vraiment... Les titres qu'ils ont donnés à ces séries sont tellement compliqués à retenir qu'on s'y perd, et voilà.
J'espère que l'intérieur est moins bordélique que la couve.
Oui. Non, parce que là, c'est déjà difficile. Quand tu vois la couverture, tu pourrais même te tromper et penser que c'est un truc, un espèce de crossover entre Avengers, tu sais, les Avengers de l'univers 616, quoi, l'univers classique, et les New Ultimates, par exemple. Enfin bref. Donc, ça s'appelle Death of Spider-Man, et pourtant, je tiens à le dire d'emblée, de rechef, Spider-Man ne fait aucune apparition dans cette histoire.
Bon, en même temps, c'est en 6 parties.
Il n'est même pas mentionné, d'ailleurs.
Ah, ouais, là, ça va.
Voilà. Voilà. On se demande même voilà, ce qu'il va venir faire là-dedans après. Mais toujours est-il qu'on démarre sur une scène chère à Millard. Alors, il y a peut-être que moi qui l'ai remarqué, mais ces derniers temps, à chaque fois qu'il démarre une histoire, il démarre sur un déraillement de train.
D'accord.
Ouais. Tu checkeras, mais Nemesis commence là-dessus et supérieur aussi. Donc, il aime bien.
Le mec a peut-être une phobie des déraillements de train.
Non, peut-être que c'est son kiff, au contraire. Il dit au dessinateur, dessine-moi un train qui déraille, s'il te plaît. Dessine-moi un train qui déraille. Oh oui, oh le joli train, il est parti. Non mais je sais pas, c'est bizarre. Bon, bref. Et pourquoi ce train déraille-t-il? Eh bien parce qu'il y a le marteau de Thor qui est posé sur la voie. Quelle bête, quel con. Il a laissé son marteau sur... en plein milieu de la voie, donc.
C'est parti pour une bonne review, ça.
Ouais, non, mais au fait, oui, donc Thor laisse son marteau, puisque les... Puisque les donc alors attends, faut pas que je me gourre entre les deux équipes, les New Ultimates, oui c'est ça. Non, c'est pas eux, c'est les autres. Oh, je sais plus. C'est les New Ultimates, ouais c'est ça. C'est l'équipe avec Thor, Captain America et tout, quoi. Bon voilà.
C'est pas moi qui pourrais t'aider là.
Ouais. Attaque ce train parce que à son bord est transporté une espèce de super soldat. Qui a été au fait sur lequel on a fait des expériences pour créer un nouveau Captain America, quoi, un nouveau super soldat. Quoi, nouveau...
Bon alors je sais pas dans l'univers Ultimate comment ça se passe, si le super sérum est toujours il y en a toujours, mais putain j'ai l'impression qu'il y en a des quantités de super soldats. Apparemment il devait y en avoir qu'un, mais putain il y en a, j'ai l'impression qu'on voit que ça, quoi.
Non mais là bon clairement il est foireux, quoi, ça se passe mal. Ça se passe mal pour lui surtout. Et aussi il y a toute une partie de l'épisode qui se situe directement après le dernier arc des...
Avengers.
Ouais, des... Ultimate Avengers, voilà, c'est ça. Ouais, là, ils affrontaient des vampires juste avant, et donc là, on voit un petit peu ce qui se passe après la bataille, quoi. Ils sont un peu mal en point, certains. Il y a Tony Stark, notamment, qui est à nouveau... sur un lit d'hôpital, alors ça rappelle un petit peu la série classique, quoi, Iron Man, puisque il est autant mal en point ici, dans cet univers, que dans l'autre. On se demande même s'il va s'en sortir. Et au fait, la finalité de l'histoire, c'est que... bon, alors je suis obligé de spoiler, parce que sinon... de toute façon, Millard, en général, met toute une histoire à mettre en place son intrigue. Donc, autant spoiler la fin.
Spoil. Attention, spoil, passez à la review suivante si vous voulez pas savoir.
Ouais, si vous voulez pas savoir, mais enfin bon, de toute façon, on devine, hein, on devine aisément de quoi il retourne. Au fait, l'espèce de super soldat là créé par des scientifiques, comment dire.
Fou.
Non, bah enfin des scientifiques du marché noir, quoi, on va dire. Hein,
d'accord.
Ont été engagés par Nick Fury, en fait.
Le méchant.
Oui, bah non, enfin Nick Fury, de toute façon on le sait depuis le début de la... Enfin on le voit dans l'univers Ultimate, dès le début, il veut mettre la main sur Spider-Man, donc c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Death of Spider-Man. ça aussi on pouvait s'en douter, Nick Fury essaye de, à tout prix de recréer des super, enfin de créer des super soldats, quoi, de se créer sa propre armée, etc. Et comme il dirige actuellement cette équipe donc de Ultimate Avengers, qui sont des Black Ops au fait, hein, les Ultimate Avengers, c'est par exemple Captain America des Ultimate Avengers, c'est la version Ultimate du Punisher, quoi. Je sais pas si tu le savais.
Alors attends, c'est qu'il y en a deux Captain America.
Il y a le Captain America classique, Steve Rogers, dans les New Ultimates, qui sont les gentils, on va dire. Et il y a l'équipe de Nick Fury qui est passée Black Ops, avec un Captain America qui est au fait le Ultimate Punisher.
D'accord.
Voilà.
Et celui de la mini-série qu'on avait lu, c'est lequel? Le normal, enfin le Steve Rogers.
C'est Steve Rogers. C'est Steve Rogers, ouais, qui a affronté.
Putain, et sérieusement quoi. Je veux pas être médisant, mais pour un mec qui connaît pas Ultimate Avengers, Ultimate, l'univers Ultimate, il piche que dalle quoi. Mm. Moi j'y connais rien, je comprends rien. Là. Franchement, je suis perdu. Ça me donne absolument pas envie d'aller voir.
Mais ouais, et en fait, bon, il faut simplement lire, je pense, la première page, tu dois voir la composition des équipes. Ils mettent ça dans tous les numéros avec voilà.
Il y a des différences dans le costume entre les deux capes ou pas?
Ah oui, il y a des différences.
D'accord, okay. Donc on peut les reconnaître, ok.
Ouais. C'est comme l'équipe donc des Ultimate Avengers a une espèce de d'Iron Man qui est au fait War Machine. Donc c'est une espèce de truc super bourrin. Enfin les Ultimate Avengers sont au fait
des gros bœufs.
Des gros bourrins, et c'est surtout des Black Ops, quoi, maintenant dirigés par Nick Fury, donc okay. C'est des badass, quoi. Alors, complainte supplémentaire sur ce numéro, quand même, qui est pas passionnant, hein, ça démarre vraiment tout doucement. Lenny Francis Yu est au dessin, et Lenny Francis Yu, je le trouve... c'est beaucoup plus rusher et c'est beaucoup moins beau que ce qu'il a fait sur Superior.
En même temps, s'il faut qu'il assure deux mini-séries en même temps.
Là, franchement, comparé à Superior, je trouve pas ça terrible du tout. Notamment, alors la dernière planche où on voit Nick Fury, je sais pas quoi. Il est tout bizarre. On a l'impression que c'est un nain.
D'accord.
Ses jambes sont toutes petites et ses mains aussi, quoi. Donc je sais pas, il y a un problème de proportion il y a des planches qui sont vraiment pas top, quoi, qui sont vraiment pas réussies, alors que Supérieur est vraiment très beau.
Voilà. Okay.
Donc il est pas à son meilleur niveau. Donc pour moi, ça démarre vraiment moyen, j'ai envie de dire c'est un pass, et à la rigueur, si ça se rattrape sur la suite, autant attendre le TPB, quoi, pour savoir si vraiment ça vaut le coup.
Ok, bon bah deux passes de suite, pas de bol cette semaine.
Ouais.
Bon, est-ce qu'on va relever le niveau avec les prochaines?
Ah bah, ou peut-être, ouais.
On va voir. Green Lantern Emerald Warriors numéro 7. Au scénario, Peter Tomasi, au dessin, Fernando Pasarin, qui aussi à l'ancrage, accompagné de Cam Smith et Auclair Albert. Donc là c'est encore un prélude, puisque c'est prélude à War of the Green Lanterns. Je vais essayer de résumer un petit peu. On se retrouvait à la fin du dernier épisode avec Guy tout seul, puisqu'il a été quitté par Aricia et Kilowog quand ils ont appris qu'il était déjà au courant de pas mal de choses, de par certaines visions qu'il avait eues. Donc ils l'ont laissé tomber. Il se retrouvait seul avec Bliz à attaquer la planète où il y a ce fameux... comment s'appelle-t-il déjà ? Zardor, le mec à trois yeux qu'on avait vu dans les premiers épisodes. Donc, ensuite, Sodamia est arrivé et s'attaquait à Guy Gardner et ça s'arrêtait comme ça. Donc là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. C'est un gros combat entre Guy Gardner face à Sodamia et Zardor en même temps. Bliz sert pas à grand chose, malheureusement, la pauvre, elle se fait vite défoncer. Et voilà, on a pas mal de révélations. Donc, comme je dis, c'est beaucoup de combats. C'est quand même super intéressant parce qu'il y a du très bon dialogue malgré les scènes d'action omniprésentes. Mmh. Et on a la grosse révélation de ce qu'a fait Krona, le fameux méchant à capuche, celui qui est en train de choper toutes les entités qui représentent les couleurs, comme Yon, Parallax, Predator, etc. On a la révélation de ce qu'il a fait à Sodamiat. Et on commence... franchement, avec cet épisode, à réellement entrevoir les raisons qui vont amener cette fameuse guerre des Green Lanterns. Notamment Sodamiat, qui risque d'être au centre de tout ça.
D'accord, donc c'est vraiment le retour en force de Sodamiat.
Ouais, le pauvre. Le pauvre, parce qu'il est quand même mal en point. Enfin, il est dans un sale état. Arisia et Kilowog reviennent prêter main forte à Gardner, ils étaient pas partis bien loin. Et tout ça se termine dans une jolie fuite. Je ne dis pas qui fuit et comment. C'est franchement super bon. Moi en plus au niveau des dessins, j'aime beaucoup. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est assez sympa. Ça se laisse lire. Comme je dis, il y a beaucoup d'action, mais malgré tout, il y a pas mal de dialogue. Là où par exemple dans Widowmaker, on a beaucoup d'action et on a quelques scènes de dialogue, mais pas tant que ça, quoi. Là vraiment, on prend du temps à le lire. Il y a surtout, comme je dis, toutes ces révélations qui sont hyper importantes. Et non, franchement, très bon épisode, très bon prélude. On a des idées, c'est pas ça, pas démarrer tout de suite. À quoi que je sais pas si ça démarre pas. Non, je crois que ça démarre le mois prochain en fait, la guerre des Green Lantern. Je sais plus. Il y a tellement de choses qui démarrent bientôt là, tellement d'events que je suis un peu perdu. Mais je crois que c'est en mars. Donc, en tout cas, un numéro à lire, notamment pour avoir quelques premières explications et commencer à pouvoir tirer ses propres conclusions.
D'accord.
C'est quand même mieux, je dois avouer, si on a lu l'épisode précédent. Bon, on arrivera à comprendre quand même, et c'est vrai qu'il manque toujours ces recap pages chez DC, quoi.
Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué quelquefois.
Ouais. Ça, c'est vraiment le gros défaut chez DC, c'est qu'il n'y a pas ces pages de récap.
Oui, et rappelle-toi aussi, les pages de récap dans les années 90, même chez Marvel, étaient déjà mieux que ce qu'elles sont maintenant. T'avais quelquefois des pages dépliantes, avec des images du précédent.
Bah, c'était souvent en deux pages, hein. C'était une double page.
Voilà, c'est ça. C'était vraiment assez bien fait, et puis à l'époque, ça coûtait moins cher en plus.
Oui, aussi. Bah là, les numéros DC sont à 2,99 hein, quand même.
Les comics d'avant, c'était beaucoup mieux.
Non, mais ils mettent un gros sticker sur leur cover, quand même, qui dit on franchira pas la ligne des 2,99. Ah, les mecs insistent, quoi. Mm. Bon, après tout, ils ont raison. Ils sont les seuls à le faire pour le moment. Qu'ils en profitent, ça va pas durer.
Non, ça va pas durer du tout maintenant. Je pense que tout le monde va se mettre au diapason.
Parce que de toute façon, Marvel a annoncé qu'ils étaient en train de réfléchir à descendre leur prix avec leur nombre de pages aussi.
Ouais, bah ils vont faire pareil, à mon avis. C'est la seule solution.
Normal. Donc, non, franchement, très bon épisode. Pour moi, c'est un bail. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez suivre War of the Green Lanterns. Je pense qu'on peut le suivre quand même sans, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit prélude.
Très bien.
Je te repasse la parole pour ta dernière review.
Oui, la dernière review de la semaine, avec, surprise, Amazing Spider-Man 654. Alors, je pensais pas refaire du Spider-Man avant un petit moment, et puis finalement, tout simplement en le feuilletant sur les étalages, je me suis dit, mais attends, mais il se passe des choses dans ce Spider-Man.
je dois avouer que le dernier numéro, je l'ai lu, il était un peu pourri, quoi. Un peu beaucoup, même.
Tu l'as lu ?
Le 653.
Ah oui, oui, d'accord.
J'ai pas eu le temps de jeter un œil au 654. Oui, je voulais savoir, mais... Bon,
d'accord. On retrouve... Alors, c'est assez marrant, parce que je m'en étais pas rendu compte, mais apparemment, Dan Slott, t'as l'intrigue, on va dire, mais c'est Fred Van Lente qui fait le script.
Ah bon ?
Eh oui. C'est pas marqué sur la couve, mais c'est marqué dans les crédits.
Putain, j'ai pas fait gaffe le mois dernier, si c'était le cas.
Eh ouais, je sais pas, faudra checker, parce que... voilà. Stefano Caselli est au dessin. Et bah voilà. Donc, c'est la suite et fin de l'arc en cours. Alors, je sais plus.
Sur Smite.
Oui, enfin. Voilà. Oui, sur les Spider-Slayers, sur l'attaque des Spider-Slayers, encore une fois. Mais on avait quitté, rappelle-toi, Peter Parker sur un petit cliffhanger où on n'était pas sûr que son camarade de laboratoire...
son boss, hein. C'était son boss quand même.
Oui,
son boss.
Oui, son camarade, son pote.
Max.
Oui, Max. Donc son boss avait peut-être découvert son identité secrète. Et au fait, comme tu sais depuis le deal avec Mephisto, c'est un petit peu ridicule, mais personne ne peut le déduire logiquement. Eh bien, au fait, ce qu'il déduit, c'est que Peter Parker bosse forcément avec Spider-Man, puisque Spider-Man ne peut pas non seulement avoir des pouvoirs extraordinaires, mais en plus être assez intelligent pour faire ses toiles.
D'accord.
Voilà.
Donc, il s'approche de la vérité quand même.
Donc oui, mais comme à cause de Mephisto, soi-disant, c'est impossible. Ou à cause de Tony Stark d'ailleurs, je ne sais même plus. À force, je suis perdu. C'est impossible de faire le lien.
On va dire à cause de Brand New Day, ça sera plus simple.
Voilà, à cause de Quesada. à cause des scénaristes. Hein. De toute façon, c'est plus simple pour eux aussi. Hein. C'est ça la finalité au fait. Ça leur mâche le travail.
Oui et non, puisque ça enlève une part de mystère.
Bah, ça enlève une part de fun, mais en même temps c'est plus simple après pour trouver des explications au fait que les gens soient si bêtes et ne ne déduisent pas que Peter Parker est Spider-Man. Enfin bref, bon, c'est l'éternel problème de toute façon. Donc voilà, et bah surtout on continue cette intrigue avec l'attaque des Spider-Slayers sur les proches de Jameson. Et donc il y a plein de super-héros qui ont été réquisitionnés pour leur porter secours.
Oui, parce que les New Avengers débarquaient dans le dernier épisode.
Voilà, et donc il y a une scène assez sympathique par exemple où il y a, tu sais, comment s'appelle-t-elle, cette journaliste blonde là.
Ah oui, Nora.
Nora, voilà, exactement. Et ben il y a le nouveau bouffon, Phil Rick, qui lui dit de s'échapper avec lui parce que le Bugle est en train de s'écrouler.
Encore?
Bah oui. Enfin, oh, putain. En partie.
Il vient juste d'être reconstruit le
point. Mais ouais, je sais bien. Ah mais c'est toujours pareil avec Spider-Man, il a dû être cassé 150 000 fois et réparé 150 000 fois. Et bien sûr, il laisse derrière lui le fils de Robbie, sur lequel les décombres s'écroulent. Et du coup, il dit que bon bah s'il s'en est pas débarrassé cette fois, il retentera sa chance une prochaine fois. En gros, il veut absolument se débarrasser de lui et
il
l'avoir.
Il essaye de piquer Nora depuis le départ, quoi. Voilà. Le dernier épisode, c'était un peu le cas.
Voilà. Donc c'est toujours assez marrant. En fait, il se passe quand même pas mal de choses avec les personnages secondaires. Et au fait, Spider-Man lui est opposé au Scorpion, updaté, fameux Scorpion en armure de créé par Smite. Et bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre sans trop spoiler? Cet épisode va bouleverser considérablement la vie de l'un des personnages principaux. Voilà.
D'accord.
Et ça risque d'avoir des répercussions très très importantes pour la suite, quoi. Va y avoir.
Au moins un truc qui aura servi dans cet arc-là.
Va y avoir un comment dire quelqu'un qui risque de ne pas. En ressortir quoi, cet épisode. Alors, je te laisse déduire qui pourrait y passer. D'accord. Sachant Tante May, Jameson, le père de Jameson, enfin, tous étaient en danger, quoi.
Oui, ils étaient tous en danger.
Voilà. Donc,
et puis son fils aussi.
Exactement. Donc, qui ne va pas s'en sortir? Et ben voilà, ça fait tout l'intérêt de cet épisode et je dois dire que ça m'a surpris, je m'attendais pas à ce qu'il se passe grand chose en fait. Contre la fin est assez expédiée quand même, hein. ça se termine un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Bon. Le plus intéressant, ça reste quand même la suite. Il y a un backup Venom par Dan Slott et au dessin Paolo Siqueira et Ronan Cliquette de Oliveira. Donc au fait, où on nous révèle qui est ce fameux nouveau Venom.
Voilà. Alors ça, je l'attendais pas. Je l'attendais pas tout de suite, je l'attendais le mois prochain, en fait.
C'est là, c'est dans ce backup, et c'est plutôt pas mal, même si, on l'avait pressenti, quand même.
D'accord, de toute façon, on attend le début de l'ongoing le mois prochain, normalement, parce que ça sort en mars, je crois, le premier Venom.
Certains l'avaient même pressenti depuis des années, j'ai envie de dire. Et au fait, je dirais juste une petite remarque, c'est que ce personnage de nouveau Venom me fait penser à Haunt. Parce que il y a le côté...
Tout te fait penser à Haunt cette fois-ci. Vrai, c'est parce que tu l'as lu récemment pour le Comics Weekly. Le Comics City plutôt.
Le côté Black Ops, costume symbiotique, franchement, c'est Haunt, quoi. C'est Haunt.
Donc bon. De toute façon, nul doute qu'on reparlera de Venom à la sortie du numéro 1.
Et nul doute qu'on reparlera de Haute très vite, puisque...
Comic City,
qu'on enregistre demain pour une petite histoire. Ouais.
Pas de repos.
On est en train de rater Dancing with the Stars, hein, donc c'est quand même très grave.
Putain, je savais même pas qu'il passait cette merde.
si, sur TF1. Ouais, alors, faut voir la gueule des stars françaises, hein, aussi.
Ouais, d'accord.
Je sais pas qui y a dedans, mais je pense que ça doit être... Ça doit valoir son pesant de cacahuètes. Donc voilà, écoutez plutôt Comics Weekly, Comic City... Plutôt que de regarder ça.
Écoutez, c'est tout pour cette semaine. On se quitte quand même avant avec un mail que l'on a reçu. Un mail de...
Attends, je t'ai même pas dit s'il était un...
Oh, excuse-moi, je suis parti déjà.
Et c'est un bail, allez hop.
C'est un bail. Eh ben, c'est magnifique. Ah, trois bails de passe.
Oui,
ah,
bah oui.
C'est pas mal. Oui. Allez, on passe au mail. Un mail de Bazafrog. Qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe de Comic City, j'ai découvert votre merveilleux travail il y a environ un an après une recherche infructueuse sur Google, sur Google, hein. On peut faire de la pub. On n'est pas commissionné, bah, mais c'est pas grave,
Google, tout le monde le cite maintenant, hein. Ouais. On voit même partout.
Je suis tombé sur Cap Chronicles, puis vous. Pour me présenter, je suis un passionné de comics depuis le passage du seuil du péril par les X-Men. Ah, nostalgie. Depuis, j'ai réuni et suivi tout ce qui se faisait en X-Men avec mes économies d'enfants, d'ados, de jeunes travailleurs, webmaster comme Claire. Donc je commence à en faire beaucoup. J'ai longtemps cru être le seul trentenaire à lire encore Ultimate Spider-Man et j'ai découvert avec votre émission que je n'étais pas un cas isolé. C'est ma femme qui était soulagée. Vous êtes alors devenu de véritables potes radiophoniques geeks, intéressants, pas prétentieux. Vous m'avez quand même fait dépenser beaucoup... attendez, excusez-moi, je vais reprendre.
C'est l'émotion.
Ouais. Vous m'avez quand même fait dépenser quelques pièces avec les TPB Green Lantern, trop cool. Green Lantern Corps, trop cool. Walking Dead, mais ça pique quand tu le lis. J'ai pas fini, je laisse passer du temps entre les tomes pour m'en remettre. Invincible, et j'en passe. Je suis toujours pas super d'accord avec votre avis. J'ai réécouté les Comics Weekly 2 et je trouve le Secret Avengers pas si mal. Je dirais même que le Marvel Star est le meilleur relaunch de ce mois. On en reparle très bientôt dans Comic City. Hein. Mais, ma foi, c'est cool d'avoir une émission référence. J'ai désormais hâte de voir la transition entre les Comics Weekly 1 et 2 et l'Heroic Age Panini, car mine de rien, vous durez les gars et c'est cool. Pour info, je suis uniquement à travers votre flux RSS, uniquement à travers votre flux RSS et le site. Bravo à toute l'équipe et j'ai un mot de la fin qui désigne Comic City, rocambolesque. Longue vie RSSO Fluxo Streamo Radiophonique en espérant qu'un jour Dargo et Panini reconnaissent votre travail de critique à leur juste valeur. Eh bien, merci beaucoup Bazafrog, ça me fait réellement, réellement plaisir d'avoir des mails comme ça, des mails d'encouragement comme ça. Que tu sois pas d'accord avec notre avis, justement, c'est aussi l'intérêt, bon, on va pas non plus cracher dans la soupe en disant c'est pourri alors que c'est bien, juste pour susciter de l'intérêt, mais c'est vrai que on a notre avis tranché et mais vous avez votre avis aussi et justement n'hésitez pas à nous faire partager votre avis quand il est différent du nôtre.
Enfin puisque... tranché
la vanne qui tombe à l'eau.
Non mais tranché pas tout le temps hein, justement.
Non mais justement pas, voilà c'est vrai que tiens des fois qu'il y a une petite explication pour faire changer un pass en un mégabyte quoi. Un petit truc qu'on n'a pas forcément vu.
Tu prends un peu vite.
Non, mais c'est vrai qu'honnêtement, un truc qu'on n'a pas vu, une simple référence qu'on a ratée peut faire changer un avis rapidement. Quoi. Quand la référence est bien utilisée, voilà, ça peut tout changer. Et puis bon, les goûts, les couleurs, malgré tout, voilà, c'est ça aussi qui fait la différence et qui fait que dans le comics, tout le monde s'y retrouve, puisqu'il y en a pour tous les goûts.
Exactement. C'est merveilleux.
C'est magnifique. En tout cas, merci à toi de nous suivre depuis aussi longtemps, et puis j'espère que tu vas nous suivre encore très longtemps. Et puis ben voilà, je ne sais pas quoi ajouter de plus, Meunier.
Bah, écoute, tu m'as dit à la fin reconnu par Dargo et Panini.
Oui, Dargo et Panini. Je pense qu'il voulait dire Delgo.
Delgo, hein. Oui, parce que Dargo, je sais pas si.
Je n'ai même pas fait gaffe en lisant. J'ai lu Dargo, mais j'ai compris Delcourt. Oui. Non, ça arrive, c'est pas grave. Donc, bah oui, peut-être qu'un jour,
Jour, Dargo nous téléphonera pour nous dire, mais qui êtes-vous?
En tout cas, Panini, je dois avouer qu'on a eu un très bon contact lors du festival d'Angoulême. De toute façon, il y a un spécial sur le comment ça s'appelle, le compte rendu d'Angoulême qui arrive très prochainement, dès que j'aurai un petit peu de temps pour le monter. Ce qui va pas être tout de suite, d'ici une semaine peut-être. Puisque Comic City et Comics Weekly en priorité.
Oui, enfin.
Mon pauvre.
Je suis en train de
mourir. Benny est en train de nous lâcher. Donc, merci à toi, Bazafrog. Vraiment, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir des petits mails comme ça, des petits mails d'encouragement. Puisque on partage notre passion, mais c'est vrai qu'on le fait aussi pour vous. Et voilà, et ça fait toujours vraiment plaisir de voir que des gens nous suivent et apprécient notre travail. Voilà, enfin je sais vraiment pas quoi dire de plus, sans paraître ridicule. Donc
de toute façon, c'est déjà.
Merci. Voilà. Ça fait plaisir, ça s'est fait. Voilà. Donc ça se paiera hors antenne.
Très bien. Ouais. Le rendez-vous.
Je vais te faire passer tatou, moi. Tu vas voir.
D'accord, tatou. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais te faire passer tatou.
Oui, tu sais, c'est le concurrent du tam-tam.
Oui, c'est ça.
Voilà, pour les vieux comme nous. Et
Je vais m'acheter Captain America, c'est un nouveau super-héros qui vient de sortir. T'as vu ça, Vincent?
C'est le grand-père d'Homère. Enfin, ah, c'est oui. Le père d'Homère plutôt, le grand-père de Bart. Oui. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Comics Weekly. Vous retrouvez tous les podcasts sur iTunes ou sur le site, hein, ou par des flux RSS comme fait Bazafrog. Vous pouvez nous laisser des commentaires, nous envoyer des mails, l'adresse podcast@comiccity.fr. N'oublie pas le .fr, de temps en temps, moi je l'oublie quand je le donne, l'adresse, mais sans .fr ça marchera pas. Ou encore le répondeur au 09 70 440 497 pour nous laisser un petit message vocal. Et puis bah le mot de la fin, il est tout trouvé. On va utiliser le mot de la fin de Bazafrog, si tu ne vois pas d'objection.
Non, allons-y.
Donc le mot de la fin, c'est rocambolesque. Voilà. Merci à toi, Bazafrog. Pardon.
Ça, je vais peut-être le dire.
Ouais, bah vas-y, je te laisse.
Du coup. Donc
fais pas d'imitation, tu vas te tuer.
Le mot de la fin de Comics Weekly, c'est rocambolesque.
Eh bien, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, et lisez pas trop, ça fait mal aux yeux, ça fait les yeux qui piquent, après il faut acheter des gouttes et c'est pas bien.
Avec un peu de chance, on aura retrouvé notre vrai Bunny et quoique la voix malade te rend la voix suave.
Ouais, exactement.
T'y crois à mort.
Bonjour les auditrices qui nous écoutent et qui sont nombreuses peut-être.
J'en connais un qui va se faire taper sur les doigts bientôt. Ou sur les pattes.
Ouais, ah oui.
Ouais. Bah, c'est une vanne miteuse, moi aussi, je pense. Bien, on va peut-être se quitter quand même, parce que nos fins pourries... nos vieilles fins pourries qui durent 20 minutes. Ça, c'est la marque de fabrique Comic City, on ne sait pas finir. Eh bien, à la semaine prochaine, et amusez-vous bien.
Ciao.
Et soigne-toi bien, bébé.